Dans l'invitation, je posais la question, verrons-nous un foisonnement d'églises bibliques indépendantes et interdépendantes les unes des autres qui travaillent ensemble dans ce pays? Ou est-ce que les œuvres actuelles continueront-elles de solliciter ou de voir offrir l'entraide des églises et des agences missionnaires d'ailleurs? De jeunes pasteurs français se verront-ils confier, français ou francophones, se verront-ils confier des églises locales viables? Trois messages. Donc ce matin, nous avons vu la première phase qui était de parler des églises indigènes, autochtones, nationales, etc. Deuxième message, c'était sur l'autogestion, comment on devait développer cette autogestion. Et le troisième message portera sur des églises locales qui se propagent. Alors,
les chrétiens sont sympas. Les chrétiens sont pleins de bonnes dispositions. Et les chrétiens ne sont pas toujours obéissants. Le Seigneur avait dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok? Pentecôte est arrivé, à chapitre 2, 3000 personnes, plus de 3000 personnes se convertissent et sont baptisées à suite au message de l'apôtre Pierre. Et tous les 120 ont été mis à contribution pour baptiser ces gens. Et ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, ils prient à la communion fraternelle qui s'installe, ils témoignent, c'est une église conquérante, et des foules se convertissent, et même, nous avons vu ça aussi, les docteurs de la loi, hein, les sacrificateurs et les scribes qui se convertissent à la foi. Et puis, on est toujours à Jérusalem, hein. On est toujours à Jérusalem, ça n'a pas bougé. L'église se multiplie, l'église grandit, l'église se multiplie, il y a des forces vives, il y a les apôtres, il y a tout le monde là. Et ça ne bouge pas. Et il y a les premières persécutions qui arrivent, hein, mais ils arrivent à résister aux persécutions. Pierre, Jean, ils prient, ils disent, il vaut mieux qu'on obéisse à Dieu plutôt que de vous écouter, vous, Sanhédrin, et désobéir à Dieu. Et puis, il y a Étienne qui prêche son message et qui est lapidé. Et là-dessus, on voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, il y eut ce jour-là, donc le jour où Étienne a été lapidé, Actes chapitre 8, il y eut ce jour-là une grande persécution entre l'église de Jérusalem et tous, ça avait du monde, hein, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes purs ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Seul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes, femmes et les faisait jeter en prison. Mais tous ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, hein, tous ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Autrement dit, une persécution par Dieu, un grand coup de pied dans la fourmilière, pour que ces chrétiens se disent, mais ah oui, il y a la Judée, ah oui, il y a la Samarie. Et puis il leur faudra encore une vision spéciale à Pierre, l'un des éléments moteurs de cette église. Il faudra une vision spéciale dans chapitre 10 là, pour que finalement on aille annoncer l'évangile aussi aux non-juifs, aux païens, à Corneille et sa maison, etc. Autrement dit, Dieu est obligé de pratiquement de forcer la main à ces églises-là pour qu'elles fassent leur travail pour cette église-là. Et je crains que ce soit aussi le cas pour nous. Je crains que ce soit aussi le cas pour nous. Alors vous pouvez vous replier sur Rouen, sur Vernon, sur Argenteuil, sur vos localités. Vous pouvez vous replier et puis vous trouver très, très, très à l'aise, hein, et apprécier la communion fraternelle et la musique et la bonne prédication et tout le reste. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, à savoir que l'Évangile se propage, la bonne nouvelle se répande, attendez-vous à ce qu'il y ait aussi des grands coups de pied dans la fourmilière. Cette autopropagation, hein, c'est l'aspect le plus important du travail d'un évangéliste. Il faut qu'il passe le message aux chrétiens que le témoignage doit absolument se déverser, se répandre, et que l'évangile doit être répandu au-delà de leur petite Jérusalem normande ou ailleurs. Une œuvre qui ne se reproduit pas sur le plan de l'évangélisation se condamne à une mort certaine et, je dirais, bon, elle peut vivre repliée, une petite vie d'église, une petite vie protestante, là, ça peut se faire, hein. Mais elle se condamne à l'échec ultime de l'œuvre d'implantation de l'évangile, de l'évangile. Parce que elle se refuse à apporter l'évangile à l'extérieur, progressivement, elle ne va plus le faire sur sa propre Jérusalem. L'église locale, c'est la base de l'évangélisation. Évangélisation veut dire quoi? Simplement témoigner autour de soi que Jésus-Christ est venu, Dieu dans la chair. Dieu s'est incarné, il a pris la forme humaine pour s'identifier à la race humaine. La race humaine était perdue, pécheresse et perdue à cause de nos transgressions. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour nous racheter. En Christ se trouve la seule expiation possible pour vos péchés et les miens, en Christ. Et quiconque se confie dans l'œuvre expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ a la vie éternelle, le don de la vie éternelle. Ça, c'est le message qu'il faut impérativement faire connaître. Impérativement. Et on ne peut pas se replier là et apprécier sa petite musique et ses petites communions fraternelles, ses petits ceci, ses petits cela, et ses petits comités, etc. Bon, ça a sa place, il y a une place pour cela. Il y a une place pour cela. Alors, au départ, qu'est-ce que nous avons vu? L'église d'Antioche envoie Paul et Barnabas en mission. Ils vont à Chypre, ils vont ensuite au nord, hein, ce qui est la Turquie aujourd'hui, hein, ce qui était l'Asie mineure à cette époque-là. Et puis ils annoncent l'évangile, et puis il y a des églises qui s'établissent. Il y a des églises qui s'établissent. Sur leur parcours, il y a des églises qui naissent. À l'arrivée, chaque nouvelle église est implantée sur le champ missionnaire, s'engage elle aussi dans un processus de renouvellement. Alors moi, je suis toujours émerveillé de lire, et je me dis, oh, j'aimerais bien que ce soit Vernon, ça, j'aimerais bien que ce soit nos églises de France. Hein. Je suis émerveillé de voir dans la première épître aux Thessaloniciens, où Paul dit, première épître aux Thessaloniciens, Paul dit, notre évangile, verset 5, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, notez, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de pression, d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit. C'est pas contradictoire, hein. Les afflictions et la joie, ce n'est pas contradictoire du tout. Verset 7, en sorte, notez, c'est cela qui nous... Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 7 maintenant. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, non seulement en effet, écoutez bien, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, et ils ont couvert un sacré territoire, hein, regardez une carte, regardez la Macédoine et l'Achaïe. L'église de Thessalonique a bougé, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, voilà une église qui a voulu, Achaïe, Macédoine. Au départ, c'est un missionnaire qui arrive, hein, c'est Paul. Paul qui arrive à Thessalonique et il ne reste pas bien longtemps. Calcul, c'est en 3 semaines et 6 mois, hein, maxi. Et une œuvre se développe. Bon, ils reviennent pour encourager ces chrétiens, mais le mécanisme, c'est même pas ça. La compulsion évangélique était en place chez ces chrétiens. La compulsion évangélique. Cette bonne nouvelle, d'autres doivent l'entendre. L'impréparation à l'évangélisation conduit des œuvres, évidemment, à mourir tout doucement, à faire du nombrilisme, non ? On ne sait plus que s'intéresser à combien d'anges peuvent tenir sur une pointe d'aiguille. Par là, je veux dire, on se focalise sur des choses qui ne sont plus importantes. On a perdu la réalité et l'urgence, on a perdu le sens de l'urgence en ce qui concerne l'évangélisation. Et ces œuvres-là demeurent stériles. Les évangélistes, évidemment, sont obligés de se maintenir longtemps dans l'espoir que d'autres se convertiront et s'ajouteront. Et quelquefois, on s'arrache les cheveux parce qu'on fait beaucoup d'évangélisation et il y a peu de gens qui se tournent vers Christ. Hein. Donc il faut renouveler l'effort plutôt que de se lasser. C'est la, notre tendance à nous, c'est de dire, oh, ils reçoivent rien, ils sont mous, ils s'intéressent que à la Coupe du Monde et à Nintendo et à ceci et à cela. Il faut redoubler d'efforts, redoubler de présence. Il faut qu'ils puissent voir la différence là, chez nous, l'amour, la paix, la joie, la stabilité, hein, l'enthousiasme, toutes ces choses qui sont des vertus chrétiennes. On ne retrouve l'enthousiasme que quand l'équipe de France gagne. Attendez. Alors, l'autopropagation d'une église permet évidemment une expansion qui va être par réverbération et sous azimut. En fait, il suffit d'établir, comme Paul le faisait, des églises, des œuvres dans les grandes villes, les grands centres urbains, bien préparer les gens, et de là, l'évangile doit rayonner ensuite vers les contrées. On ne pourra jamais établir une église à Bréval, ou une église dans les petits villages. Par contre, ils ont besoin d'être touchés avec l'évangile. Et par contre, les autres villes qui sont plus importantes, en Normandie, là, devraient pouvoir bénéficier, entendre l'évangile, et des noyaux se constituer avec des chrétiens. Et nous, on irait là, chez eux, pour les aider, pour les encourager, et puis les stimuler. Mais l'autopropagation repose sur un projet simple, c'est cette expansion par réverbération. Jérusalem, la Judée, la Samarie, et on va comme ça, progressivement, par implantation, d'implantation en implantation, on va jusqu'au bout du monde. Elle repose sur un message essentiel, on l'a compliqué absurde. Le message essentiel, c'est pas qu'on donne toutes les réponses aux gens sur le Da Vinci Code, c'est qu'ils puissent entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Après, une fois qu'ils ont entendu ça, on peut commencer à répondre à certaines de leurs questions, mais il faut qu'ils sachent le message essentiel de Dieu, le message central de Dieu. Je vous envoie mon Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un message essentiel. Cette réverbération ou cette expansion repose sur une puissance surnaturelle, pas la vôtre, pas la mienne, c'est celle du Saint-Esprit. Et si on fait les choses dans la chair, et si on fait les choses parce qu'on croit avoir acquis toutes les notions nécessaires à l'évangélisation, on va se retrouver rapidement en difficulté et son fruit, ou alors des fruits suspects. L'Esprit de Dieu, il faut se reposer sur l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous croyons que l'Esprit de Dieu peut toucher Vernon? Est-ce que nous croyons que l'Esprit de Dieu peut toucher Rouen et Argenteuil et de là rayonner encore plus loin? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous sommes disposés à laisser Dieu agir dans notre cœur pour que la chose se fasse? Parce que là, cette propagation repose sur un agent simple. Il ne faut même pas une équipe de football, là. Il faut simplement un chrétien, donc une personne née de nouveau, et qui s'enthousiasme pour Dieu, et qui a de la compassion pour les perdus. Heureusement qu'il y a eu des gens qui ont eu de la compassion pour vous et pour moi. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est venu me trouver en disant « J'aimerais bien t'inviter pour que tu entendes ces messages. » Quand on est évangéliste maintenant, hein, je reviens à mes évangélistes, parce que, au fond, j'espère qu'il y en ait beaucoup plus parmi nous, et ensuite, il y a des évangélistes en formation, et vous faites œuvre d'évangéliste là où Dieu vous a placé, hein. Mais il vaut mieux mettre 10 hommes à l'œuvre plutôt que d'essayer de faire le travail de 10 hommes. Ça, c'est une règle, une simplicité, et pourtant, les nouveaux convertis, quand de nouvelles personnes se convertissent à Christ, ce ne sont pas des pions, c'est bien plus que cela, ce sont des semences évangéliques. À Saint-Marcel, à Tourny, dans les villages, à Voisinon, à Vernon, etc., dans vos villages à vous, là, petit Quévilly, grand Quévilly, moyen Quévilly, archi Quévilly, enfin, tout ce que vous avez là-bas, ce ne sont pas des pions, ce sont des semences de vérité que Dieu place là. Des personnes avec l'évangile. Et ces semences vont elles-mêmes rayonner et apporter la vérité à d'autres. Et les personnes qui se convertissent témoignent avec enthousiasme. Et elle témoigne avec enthousiasme dans un cercle précis, hein. En général, elle fait ça dans sa famille. Alors moi, j'étais reçu comme le père de la jeune fille. quand j'ai témoigné la première fois à mes parents, ça s'est mal passé, donc j'étais devenu la proie d'une secte, etc., etc., et puis ça s'est mal passé. Après, des années plus tard, ils se sont convertis les uns après les autres. Mais au départ, c'était pas cela. Mais il y a des gens qu'on touche, il y a des amis qui sont venus à Christ, il y a des voisins qui sont venus à Christ, il y a d'autres personnes qui sont venues à Christ parce que quelqu'un m'avait donné l'évangile et moi je l'ai partagé. J'ai partagé déjà dans ma sphère immédiate. Ensuite, j'ai élargi le cercle à d'autres que je ne connaissais pas. Mais les nouveaux convertis ne sont pas des pions, mais des semences avec des possibilités extraordinaires. Bon, il y a des semences qui meurent, pour dire rien, hein, c'est vrai. L'implantation réussit là où l'évangéliste motive les chrétiens, les autochtones, là, à évangéliser, plutôt que d'essayer soi-même de se couper en quatre là, pour évangéliser tout le pays. Hein, ce n'est pas possible. C'est une équipe à l'œuvre. Ce n'est pas simplement le chef d'orchestre là, qui joue toute la partition. Et l'évangéliste fait un grand tort à une œuvre s'il fait croire aux chrétiens, aux convertis nationaux, qu'il est lui l'agent incontournable dans la conversion de les voisins. Ah, si vous avez un voisin ouvert, dites-le-moi, j'irai lui parler. Si vous avez des voisins ouverts, continuez de leur témoigner. Moi, je prierai pour vous. Je prierai pour vous. Je prierai avec vous. Mais vous témoignez. Donc, les autochtones, s'ils sont habitués à cela, feront toujours appel à l'évangéliste, feront toujours appel aux serviteurs. Plutôt que de témoigner eux-mêmes, ils vont se tourner. J'aimerais bien que vous parliez à mon voisin, j'aimerais bien que vous parliez à mon oncle, j'aimerais bien que vous parliez à un tel. Ce sont eux qui doivent être les porteurs de la bonne nouvelle. Il faut les encourager à cela, il faut les préparer pour cela. Sans ce sens de la mission urgente et noble, la flamme des nouveaux convertis s'éteindra progressivement parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas comment d'autres personnes viennent au Seigneur à travers leur témoignage. Alors, on a déjà vu que la Jérusalem locale, alors c'est Vernon, c'est Roubon, c'est Argenteuil, c'est la ville dans laquelle s'est établie votre église locale. Bien, cette Jérusalem locale, son développement se fait par l'action spirituelle de tous les chrétiens. J'en ai déjà parlé. Il suffit de dire ici que l'évangélisation doit se faire à l'extérieur de l'église. À l'extérieur de l'église. Je ne crois pas du tout à ces grands appels. Oh, campagne d'évangélisation, on va faire venir, on va faire venir Darius, là, il va prêcher, et puis les gens vont se convertir. Je suis sûr qu'il a un message percutant, je l'ai entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? On l'a fait à Vernon, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez 5000 affichettes à travers la ville, et vous dites aux chrétiens, invitez. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne viennent pas aux réunions. Ça ne les intéresse pas. Il y a la télé, il y a la pêche, il y a le sport, il y a ceci, il y a cela. Ça semble beaucoup plus intéressant aux inconvertis que de venir écouter Darius. Ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Darius serait même plus intéressant que les autres. Mais l'évangélisation se fait à l'extérieur, par les chrétiens. L'édification se fait à l'intérieur du groupe. L'étude biblique, les encouragements, le culte d'adoration, c'est fait à l'intérieur. Il ne faut pas s'amuser à faire de l'évangélisation à l'intérieur. Sauf si, par un effet de la bonté de Dieu, hein, quelqu'un débarque dans votre lieu de culte en disant « J'ai vu ce panneau et je ne sais pas ce que vous êtes et je veux voir. » Bon, une fois tous les tremblements de terre, là, il faudra introduire évidemment dans votre prédication un élément d'évangélisation. Mais sinon, le dimanche, c'est l'adoration, c'est la préparation des chrétiens pour le ministère, c'est les exhortations, des études bibliques sont là pour ça aussi, les réunions de prière. Il suffit de dire donc que l'évangélisation est l'affaire de tous. D'ailleurs, quand les chrétiens de Jérusalem ont été dispersés, c'est eux qui allaient de lieu en lieu hein, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alors il faut s'étendre ensuite vers la Judée régionale. Alors vous me direz, jusqu'où va-t-on aller? Bon, si je vois quelqu'un de Rouen venir à Vernon, je vais téléphoner et dire qu'est-ce que vous faites ici. Mais par contre, s'il n'y a absolument aucune église entre Rouen et Vernon, eh bien Vernon devra aller à mi-chemin et Rouen aussi. Et former ce cercle d'évangélisation jusqu'à ce que d'autres églises puissent s'implanter et puis réverbérer. Mais on ne va pas piétiner les plates-bandes de Rouen, on ne va pas piétiner les plates-bandes de Vernon, on va faire de l'évangélisation sérieuse. Sérieuse, cohérente. Donc, c'est simple, vous regardez là où se trouvent des églises, vous prenez votre compas, vous faites un cercle autour, et puis vous allez voir ce qu'est ce territoire à couvrir, et faites-le. Faites-le. Mi-chemin. D'ailleurs, dans certains cas, je dirais que la maison de membres éloignés peut devenir même un point de rencontre pour la prière et l'évangélisation dans ces villes. On a des chrétiens qui vivent à 15 km, 20 km de l'église, et certains vivent dans des villes, bon, ce ne sont pas des villes majeures, hein, 10, 12 000 habitants, mais une église peut naître là. Ça ne va jamais être une église de 6 000 personnes, mais une église peut naître. Alors, il faut qu'on se dégage, nous, de ce que j'appelle le centralisme colbertiste. Colbert, c'était le centralisme. Tout était centralisé, Paris, il dirigeait tout. C'est le centralisme. Et quelquefois, on a cette impression, avec certaines églises, avec certains chrétiens, que tout est centralisé, tout doit être contrôlé par leur épicentre. Là. Il existe des œuvres qui, par goût du nombre, vont ratisser donc, régionalement au lieu d'implanter d'autres églises locales. Alors, cette extension évangélique est possible, hein, par réverbération, partout, dans n'importe quel pays, elle peut se faire. Qu'est-ce que je peux encore dire là? Si le processus de responsabilisation est appliqué, les nouveaux groupes deviennent éventuellement des églises locales. Et on est loin de cette professionnalisation calquée sur le protestantisme que l'on voit dans pas mal de communautés. À sa place, qu'est-ce que nous devons voir, qu'est-ce que nous devons trouver? Un dynamisme, une dynamique évangélique naturelle de tous les membres de l'église locale. Alors, quand vous avez le centralisme entraîne une évolution non naturelle du ministère, d'évangéliste vers celui de pasteur docteur. Là où on pratique le centralisme, je me suis aperçu que les évangélistes avaient tendance à rester. L'église se développait, ça devenait intéressant, ils avaient quelque chose de conséquent. Mais le Christ a donné des ministères distincts. On a vu cela ce matin dans Éphésiens chapitre 4, hein, les apôtres, les prophètes, ensuite les évangélistes pour annoncer l'évangile là où il n'avait pas été annoncé, et puis les pasteurs docteurs pour poursuivre le perfectionnement des saints. Donc, aux apôtres ont succédé les évangélistes. Aux évangélistes doivent succéder des pasteurs docteurs pour que se poursuivre ce perfectionnement. Mais bien souvent, avec le centralisme, les évangélistes, alors on regroupe parfois des évangélistes, il y a 2, 3, 4, 5 qui viennent parce que le groupe est devenu important. Les évangélistes opèrent davantage comme des pasteurs docteurs à long terme au sein de l'Église qui ont été insuffisamment préparés pour se responsabiliser. Alors, il est important pour moi, en tant qu'évangéliste, c'est important pour ce jeune homme en tant que pasteur, c'est important pour tout chrétien de faire ce que j'appelle du mentorat spirituel, devenir le mentor spirituel de quelqu'un. Et c'est a fortiori une nécessité pour quelqu'un qui est évangéliste. Il va devoir préparer des personnes pour accéder aux responsabilités les plus vitales, hein, au sein de l'Église. Un mentor est une personne expérimentée qui contribue volontairement de son temps et de ses connaissances au développement personnel, spirituel d'un nouveau, un néophyte. Il agit comme un guide attentif et comme un conseiller expérimenté. Je dirais qu'un bel exemple de cette démarche est celle que nous offre l'apôtre Paul en relation avec jeune Timothée. Bon, jeune Timothée a eu une mère et une grand-mère qui se sont souciées de son développement spirituel. Il a entendu la parole de Dieu dès son plus jeune âge, ça c'est vraiment une bénédiction. Si vous avez des parents chrétiens, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, hein. Vraiment chrétien, louer le Seigneur. Mais Paul se rend à Derbe et puis ensuite à Lystre. Et là, à Lystre, il y a un disciple, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 16, qui nous le montre. Il y a un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle, d'un père grec. Le père grec, apparemment, n'a pas eu beaucoup d'incidence dans sa vie. Mais la mère, oui. On le sait à partir des épîtres pastorales. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il s'est dit, ça, on rend de lui un bon témoignage, ça va être un auxiliaire précieux dans cette tâche d'évangélisation jusqu'aux confins du monde connu. Et l'ayant pris, à cause des Juifs, il l'a fait circoncire, parce que son père n'avait jamais voulu, hein. Il l'a fait circoncire, et ils allaient ensemble par les villes, et ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres, et les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre de jour en jour. Mais Timothée a bénéficié du mentorat de Paul. Et ensuite, l'apôtre Paul lui dit, « Toi donc, mon enfant, » deuxième épître à Timothée, chapitre 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Là, il y a un mentorat qui se fait. On voit les gens qui sont capables d'enseigner. On ne parle pas d'évangéliser simplement là, mais d'enseigner à d'autres. Et d'apporter la lumière sur la compréhension de la Bible. Alors, ce genre de compagnonnage ou de mentorat est très précieux parce que il remplit au moins quatre objectifs. Il y a une formation qui est faite pour un autochtone, pour un indigène, qui est efficace et qui est adaptée. On sait où il est, on sait où il se trouve, et on adapte sa formation. La découverte par l'indigène, l'autochtone, des besoins de l'œuvre, il est avec le serviteur, il suit le serviteur, il se rend compte des besoins qui se situent partout à droite et à gauche, et cela le pousse à s'engager davantage et le rend plus réceptif. Bon. Les chrétiens dans une église, les chrétiens dans une assemblée vont voir opérer l'évangéliste et un homme. Je n'ai pas dit un jeune homme. Hein. J'ai l'impression qu'on dit toujours jeune homme, comme si seuls les jeunes hommes pouvaient être préparés pour le ministère. Un homme. Les chrétiens s'habituent à voir l'un des leurs en cheville ouvrière avec l'évangéliste, et ça va les prédisposer favorablement dans l'éventualité où cet homme va devenir le pasteur. Ils l'auront déjà vu à l'œuvre avec l'évangéliste. Dans certains pays au moins, bon, c'est pas le cas ici, et puis moi je vous appuie le français, hein, mais dans certains pays au moins, la présence d'un indigène, d'un autochtone, inspire confiance à la population. J'ai entendu des évangélistes me dire, nous, quand on veut aller dans tel village, si on va seul comme ça, fleur au fusil, on sera mal reçu. Par contre, si c'est un des leurs hein, qui vient avec l'évangile et nous, on est simplement là en train de les accompagner, alors la défiance ou la méfiance se dissipe quelque peu. Donc, l'évangéliste, bon, on parle d'évangélistes qui peuvent être... Moi, j'ai le bénéfice de deux cultures. Hein, j'ai vécu dans les deux pays, dans deux pays différents, comme nos amis du Brésil, là-bas. J'ai vécu dans deux pays différents. Quand j'ai commencé mon ministère en France, je savais exactement comment les Français pensaient. J'avais été élevé et formé dans les écoles de France. Mes parents avaient représenté le modèle de base du français moyen. Donc, je n'avais pas de quiproquo, de malentendu en ce qui concernait les gens devant moi. Par contre, j'ai vu des frères, des braves frères évangélistes américains ou autres. Hein. J'arrivais là avec leur grand chapeau de cow-boy et puis... qui a là contre-culture. Hein, à contre-culture. Et comprenez pas les gens. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup d'évangélistes me dire « Oh là là, les Français, qu'est-ce qu'ils sont compliqués !» Et je dis « C'est vrai. » C'est vrai, nous, on est vraiment complexes. On est compliqués, on est complexes, c'est vrai. On n'est pas des amibes. mais c'est vrai qu'on est compliqués. Et ça désarçonne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien notre culture. Si on ne connaît pas notre culture, Robert a le privilège de vivre avec nous. Il est en train de il est en train de survivre. Il est en train de survivre parmi nous. De temps en temps, hein, il est obligé d'appeler papa et maman aux États-Unis et puis de retrouver quelques attaches là, pour ne pas plonger. Mais il est en train de faire la découverte de la culture et comprendre comment nous fonctionnons. Et je crois que c'est important de bien comprendre comment les gens fonctionnent. Parce qu'on peut arriver là, et ils l'ont fait, hein. Il y a des évangélistes qui sont arrivés, qui ont rencontré des gens. C'est là le péché, c'est la mort, hein. Puis ils ont ressorti l'autre fusil, hein, l'autre flingue, là. Mais le grand parti de la vie, le grand parti de Dieu, c'est la vie éternelle, hein. Ils ont sorti 5 versets, 6 versets. En disant Romain, 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 et le français disait je connais pas Romain. Évangéliste, pensait qu'il avait évangélisé. Des clous. Bon, on espère que la parole qui a été quand même semée là, un jour fera surface, mais c'est pas d'évangélisation, il faut se situer par rapport aux gens. Il faut se situer. Ouvrir la vision des autochtones aux besoins d'évangélistes nationaux. Ça, c'est un problème en France. On n'a pas d'évangélistes nationaux. C'est-à-dire des gens qui viennent et qui disent « Nous, on aimerait faire de l'implantation d'église. » Et il y a de multiples raisons à cela. Parce que les églises sont frileuses à soutenir. Parce que les églises sont elles-mêmes demanderesses, hein, elles ont besoin de serviteurs dans le pastorat. Et donc, ouvrir la vision des autochtones aux besoins d'évangélistes nationaux, c'est quelque chose de très important. Il faut que moi, dans ma formation ici, dans ce que je transmets à l'église de Vernon, je puisse leur faire comprendre que si l'évangile s'arrête avec nous, c'est tout. On n'accomplit rien. Et il faut impérativement que de notre sein, des hommes émergent pour aller annoncer l'évangile. Alors, par myopie, une œuvre peut vouloir retenir tout à elle. Et je crois que l'évangéliste doit faire très attention de ne pas contribuer, mais de corriger ce strabisme. Strabisme convergent. Les moyens humains sont indûment retenus. C'est vrai que dans un pays comme le nôtre, où les conversions sont épisodiques, on se réjouit hein, quand il y a une conversion ici, une conversion là, et puis une autre ici, une autre là, et si on arrive à avoir 20, 25, 30 personnes qui se convertissent dans l'année, on se dit, bon, ça a été fécond. Hein, ça a été fécond. Dans un pays comme celui-ci, les églises ont tendance à vouloir garder toutes les forces vives. Dès qu'il y a des chrétiens qui se convertissent, ah ben voilà, maintenant l'église va s'affermir, elle va se développer, elle va devenir plus stable, on a un nombre, etc. Et on a tendance à. Les églises ont tendance à garder auprès d'elles, au lieu de laisser tous les chrétiens s'épanouir, tous ne seront pas appelés dans le ministère. Ok ? Loin de là. Mais au moins que ceux qui sont appelés dans le ministère puissent le faire avec des encouragements de l'Église. Et pas en étant découragé. Pas en étant découragé parce que l'évangéliste ou l'Église dit « Non, il faut que tu restes ici, on a besoin de toi, et puis qu'est-ce qu'on ferait ?» Alors, éloignons-nous complètement de cette notion que ce sont des évangélistes venus d'ailleurs qui doivent faire l'implantation et doivent faire toute l'évangile. Non, nous devons, dans nos églises, former les chrétiens et les chrétiennes à partager la bonne nouvelle avec d'autres et encourager les vocations, les appels au ministère parmi ces personnes jeunes ou moins jeunes. Quand je suis allé à l'école biblique, bon, j'étais un gamin, moi, j'avais 22 ans, hein, gamin. J'ai côtoyé des gens qui en avaient 56, 55, 57, 60. Ça fait drôle, hein, quand vous êtes sur des bancs d'école avec des gens qui ont les cheveux gris comme les miens maintenant. Ça fait drôle. convertis sur le tard. Convertis sur le tard. Et puis ils ont dit, ma vie, c'est Christ. Et je vais annoncer l'évangile. Bon, tout le monde n'est pas appelé à faire cela. Rassure-toi, Roosevelt, ou peut-être plus tard je te tiendrai un autre message. Mais, je veux dire, tout le monde n'est pas appelé au ministère. C'est entre Dieu et la personne. Entre Dieu et la personne. Mais l'appel à la prière pour les régions non évangélisées, et puis informer continuellement les chrétiens de la situation, c'est un devoir que je reconnais pour les évangélistes, pour ceux qui établissent des églises. Je pense à l'apôtre Paul, encore une fois, qui a été certainement l'un des évangélistes les plus percutants. L'apôtre Paul priait, demandait aux chrétiens de prier pour lui. Il s'adresse aux Thessaloniciens et leur dit, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Que nous soyons aussi délivrés des hommes méchants et pervers. Tous n'ont pas la foi, mais priez pour nous. Il avait besoin de prière, l'apôtre Paul. Il demandait à des chrétiens de prier pour lui. Et puis il leur disait, attention, hein, moi je suis en territoire ennemi, là, tous n'ont pas la foi, il y a même des gens qui s'opposent à moi. Priez. Ce n'est pas simplement une question d'analyse et de méthodologie, là. On prend la température du terrain, on fait une espèce de bilan sociologique et on dit on va faire des choses. Non, c'est pas ça du tout. Il faut revenir à la prière, il faut revenir à la vision des hommes qui se cachent, il faut revenir à la compassion et s'engager avec simplement la parole de Dieu et l'amour, la compassion du Christ. L'apôtre Paul disait aussi, et je prends ce texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 15 et 16, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. C'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Au-delà, cette vision de ces régions non évangélisées. C'est bien, on aime se retrouver le dimanche, ça je peux vous garantir, moi j'aime retrouver mes anciens et mes nouveaux frères et sœurs. C'est pour moi un moment de bonheur intense que d'être dans la communion avec Dieu, dans l'adoration pour Dieu avec des frères et des sœurs. Mais quelque part, je me dois de communiquer aux chrétiens la vision de ces personnes qui sont sans connaissance, sans lumière et qui ont besoin de l'entendre. Alors, quels sont les éléments indispensables dans l'autopropagation d'une église ? Alors, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ça n'a rien à voir avec les finances. Rien à voir avec les finances. Tout le monde pense que si on a plus d'argent, on va pouvoir faire de l'évangélisation. Ben, c'est faux. C'est pas financier, c'est pas matériel, mais c'est spirituel, ce que Dieu cherche. Ce sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, n'est-ce pas ? Nos pieds. On n'a pas besoin de millions et de millions d'euros là, pour accomplir l'évangélisation de la France. On a besoin de la disponibilité de chrétiens et de chrétiennes. Et il faut former donc à l'évangélisation. Déjà, encourager les chrétiens à témoigner, à dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et puis les former à l'évangélisation, donc les aider à bien transmettre la parole de Dieu, pas comme le sicou là de tout à l'heure, hein. C'est la responsabilisation de ces cadres spirituels pour servir et encourager les autres. Alors, les pièges à déjouer, il faut que je me dépêche là. Les pièges à déjouer, le piège d'abord, quand je parle de mentorat, le premier piège à déjouer, c'est celui de croire que ce ne sont que les plus jeunes et les plus brillants qui vont pouvoir servir le Seigneur. Non, c'est pas le cas. Ce sont ceux qui sont mûrs, spirituellement. Bon, ils n'ont pas toute la connaissance, ils sont mûrs spirituellement. Ils aiment le Seigneur, ils l'ont mis sur le trône de leur cœur. Ils aiment le Seigneur. Ils ont de la compassion pour les âmes. Et puis, il ne faut pas couper les hommes en formation de leur église locale. Alors nous, Robert, vous ne pouvez pas revenir toutes les semaines dans le Massachusetts, ici. Ça fait loin quand même. Donc il s'est joint à une église locale dans la région. Par contre, nos amis qui sont venus de Rouen retournent à Rouen. Ceux qui venaient d'Argenteuil retournaient à Argenteuil. Ceux qui venaient de Maison Lafitte retournaient à Maison Lafitte. Ceux qui venaient de la région retournaient dans leur église. On ne coupait pas de leur église. C'est leur église locale. C'est leur église locale. Alors il y a parfois des gens qui disent « Oh, mais il faut qu'ils voient un petit peu ce qui se fait ailleurs. » Pour savoir ce qui est juste, faut pas aller à la pêche, pour regarder dans les Écritures, et s'assurer que son église locale fasse ce qui est juste et bien. Et promouvoir cela, et encourager cela. Maintenant, il y a aussi des églises locales où les autochtones, là, les nationaux, hein, eh bien on les réfrène de prendre de bonnes initiatives. Parce que n'ont pas été décidées par l'évangéliste lui-même. Moi, je peux assurer que si un chrétien vient me trouver en me disant « J'aimerais faire de l'évangélisation et distribuer ces traités et ces nouveaux testaments. Est-ce que je peux avoir des nouveaux testaments? J'aimerais les distribuer là-bas dans cette localité et je vais ensuite voir comment réagissent les gens par rapport à la vérité. Est-ce que je peux le faire? Oh, oui, vas-y, hein. Vas-y. Faut encourager, pas réfréner. Faut habituer ceux qui bénéficient du mentorat. Non, une erreur, ce serait d'habituer ceux qui bénéficient du mentorat à certains privilèges, voilà, à certains dons, qu'ils ne connaîtront pas forcément lorsqu'ils seront, eux, dans leur lieu de ministère. J'aurai des exemples à partager avec vous d'évangélistes qui, dans des pays de l'ex-Europe de l'Est, ont commencé à déverser sur les chrétiens prometteurs, commencé à déverser des choses qui venaient de l'Occident, hein, et leur donner toutes sortes de choses qui venaient de l'Occident. Et après, le pasteur, lui, il était en Roumanie, hein, il était en Bulgarie, il était dans un pays où il ne pouvait pas recevoir tout ce que l'occidental lui avait donné, des États-Unis ou de la France. Il faut faire attention, c'est un piège, ça. Il faut aussi protéger les autochtones, là, qui veulent servir le Seigneur, il faut les protéger des chasseurs de têtes. Qu'est-ce que j'appelle chasseurs de têtes? C'est peut-être un terme fort, hein. Mais ça n'a rien à voir avec les Givaros. Il s'agit de ces hommes peu scrupuleux, ils existent d'ailleurs dans le monde industriel, etc. Il s'agit de ces hommes qui, pour l'intérêt, hein, de leur seule œuvre, là on place les choses dans un domaine d'église, pour l'intérêt de leur agence missionnaire, cherchent à recruter et font du recrutement auprès d'hommes qui commencent leur formation. On ne sait même pas ce qu'ils ont dans le ventre. Ils commencent tout juste leur formation. Ou ils sont à mi-chemin dans leur formation. Et j'ai tapé du poing, hein, sur la table, ça m'arrive de temps en temps. On appelle ça la sainte colère. Faut que je m'en sorte, là, parce que s'ils pensent que je suis colérique de nature, ça va plus. J'ai tapé du poing sur la table auprès de mes collègues qui venaient ici à l'Institut en leur disant « Il n'est pas question que vous proposiez mille et un ministères à ces jeunes qui sont en train de se former. J'ai vu ce que cela a fait dans le passé. J'ai vu les jeunes gens qui étaient en formation, et à partir du moment où il y avait 3, 4, 5 évangélistes qui leur disaient « Ah, ben toi, j'aimerais bien que tu viennes à notre église. Ah, » Terminé. Ils ne faisaient même plus attention à ce que je disais en classe. Ils étaient déjà en pastorat. Ils disaient « Monsieur Dolleur, hein. » L'Institut. Ils m'attendent là-dehors. Il y en a plusieurs. Ils vont s'entre-déchirer pour m'avoir. Il faut les protéger. Il ne faut pas les décourager de servir ailleurs. Il faut les protéger. Ne pas faire miroiter un soutien financier étranger. Et je toucherai ça tout à l'heure dans le message sur l'autofinancement, là. Mais ne pas faire miroiter à des serviteurs indigènes, autochtones, un soutien financier qui viendrait du pays de l'évangéliste. Il n'y a rien de malsain à ce que un serviteur pendant quelque temps au moins travaille de ses mains pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce que l'Église soit pleinement développée. Honnêtement, les évangélistes feraient bien de mieux développer les églises locales avant de les transférer pour de jeunes serviteurs. Le problème, c'est que si on a un soutien qui vient de l'extérieur, le pasteur indigène, national, là, devra passer du temps en tournée pour voir toutes ces églises qui le soutiennent. Parallèlement, ce soutien qui est donné à un serviteur de Dieu démobilise l'église dont il est pasteur. C'est pas à nous de faire l'effort, hein. On va faire un appel à l'extérieur pour le pasteur. On va demander à d'autres de soutenir cet homme. Et ça se fait. Ne me dites pas que ça ne se fait pas, ça se fait, ça. Alors, tout soutien extérieur découragerait, et venant de l'étranger, surtout, hein, découragerait l'Église à se responsabiliser. Personnellement, lorsque mes enfants m'ont dit « Nous voulons servir le Seigneur, nous voulons servir le Seigneur », je leur ai dit « Bon, vous avez déjà appris beaucoup de choses au sein de l'Église locale, allez vers l'Institut biblique, dans un Institut biblique pour vous former. » Ils sont venus à l'Institut biblique de Limay. Ils ont payé pour leurs études. Parce que je suis un évangéliste. Aux États-Unis, on proposait à mes enfants une scolarité gratuite. J'aurais pu les envoyer aux États-Unis. Ils auraient pu choisir d'y aller. Mais il y a une statistique qui reste ici dans mon esprit, qui est vérifiée et vérifiable. Il y a une statistique. C'est que ces jeunes et moins jeunes, ils sont envoyés dans des écoles, notamment aux États-Unis, et qui se forment, seulement 15% reviennent dans leur pays d'origine pour faire le travail spirituel. Ils sont partis en disant, on va se former pour revenir, former des églises et servir comme pasteur. Ils sont partis avec cette vision. Ils ont perdu cette vision là-bas. Ils ont pris goût à la vie américaine. Et ils se sont dit, ah, oh, mais il y a des besoins ici. Je vais faire une église française à Minneapolis. Il y a au moins 50 Français, là, on va faire une église là-bas. Ils ont besoin d'entendre l'évangile aussi. Ils parlent anglais, mais c'est pas le problème, ça. Ils sont français. Et ils ont été détournés. 15% seulement reviennent. Je n'en verrai jamais. Je ne recommanderai jamais à un jeune une église dont j'ai la responsabilité de partir aux États-Unis se former. Jamais. Parce qu'il y a un risque. Il y a un risque grave. Quand on se forme à l'étranger, bon, moi, je n'avais pas le choix. À l'époque où je me suis formé, je n'avais pas le choix. Mais quand on va à l'étranger, on adopte aussi des coutumes étrangères. Étrangères à notre culture. Bon, entre les États-Unis et la France, c'est pas dramatique. Mais entre les États-Unis et la Nouvelle-Guinée papouasie, je peux vous garantir qu'on est dans deux univers complètement différents. Et si on adopte des coutumes étrangères à notre culture, comment est-ce que les gens vont nous recevoir? Comment est-ce que les gens vont nous percevoir? On met un obstacle à notre évangélisation. Je dirais que même, parfois, j'ai vu mes amis, l'un est du Brésil, justement. Tiens, ça me donne l'occasion. J'avais des amis qui étaient venus du Brésil pour se former aux États-Unis. Ils ne sont jamais repartis. Ils se sont totalement inféodés au pays de leur formation, sans jamais revenir vers les grands besoins que connaît cet immense pays, où il y a beaucoup, beaucoup de fruits spirituels, mais aussi où il y a beaucoup de besoins. Et ensuite, oui, elles sont dures les choses. Ensuite, nationaux qui sont envoyés dans un autre pays, qui sont envoyés dans un pays étranger où ils vont recevoir une formation, ils vont recevoir leur soutien. Ben, ils vont priver leurs compatriotes, ils vont priver leurs frères dans la chair, là, de se responsabiliser en ce qui les concerne, et de progresser sur le plan spirituel. Ok, je vais m'arrêter là, il est 15 heures et des poussières. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ?